présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Fuite urinaire, problème d'incontinence, descente d'organes, dysfonction sexuelle. Derrière tous ces problèmes se cache un organe mal connu et pourtant essentiel, le périnée. Ce muscle, qui est situé sur la paroi inférieure du pelvis, permet de lutter contre les troubles urinaires et sexuels. Alors justement, quels sont les moyens de traitement et de prévention? On va voir ça avec mes invités aujourd'hui. Le docteur Jean Juras, qui est radiologue spécialisé en imagerie médicale de la femme. Alain Boursier, qui est consultant en périnéologie, qui a introduit la rééducation du périnée en France. Ils viennent de publier ensemble tous les deux les Dialogues du périnée. C'est un livre qui paraît aux éditions Odile Jacob. Également aujourd'hui avec nous de passage à Paris, le docteur Abdoulaye Diop, qui est gynécologue obstétricien, médecin-chef de la clinique Nest à Dakar au Sénégal. Bien sûr, si vous avez envie de participer, de poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et pour terminer, on retrouvera comme tous les mercredis la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo. Docteur Jean Jaurès, Alain Boursier et docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour
à tous les trois d'être là. Alain Boursier et docteur Jean Jaurès, vous commencez votre livre en décrivant des copines qui sont au square avec leurs enfants et qui racontent leurs problèmes et leurs problèmes suite à l'accouchement. Ça tourne autour de quoi?
C'est-à-dire qu'il est souvent fréquent, quand on a un enfant, de le sortir, même s'il y a la pollution. En tout cas, en ce moment, on met des masques pour le sortir. Et on va se retrouver autour du square. Et là, on a des petits bébés, les moyens bébés, les grands bébés. Et puis, c'est là que les femmes commencent à parler de leurs histoires. Il suffit qu'il y en ait une qui dit, moi, dernièrement, j'ai eu la grippe, j'ai toussé, j'ai eu quelques fuites. Et l'autre dit, moi aussi, mais moi, c'est quand je fais du sport, parce que je fais la corde à sauter. Et puis, petit à petit, comme l'intimité est rompue, les femmes ont beaucoup plus de facilité de parler de leurs problèmes. Et souvent, elles peuvent même parler de leur histoire sexuelle lorsqu'elles se revoient à plusieurs reprises, peut-être pas la première fois. Donc, c'était une occasion pour nous de situer un lieu de rencontre des femmes après l'accouchement.
Où finalement, elles en viennent à parler de leur périnée sans savoir forcément qu'elles sont en train de parler de leur périnée, c'est ça?
Alors, le problème, c'est que cette rééducation périnale qui date depuis fort longtemps, 1985, est quand même connue par les femmes qui ont une grossesse en France, puisqu'il y a la préparation à l'accouchement avec les sages-femmes, et qui est connue après, parce qu'après, il y a la rééducation avec les kinés, les sages-femmes. Donc, le mot périnée, quand même, au niveau d'une femme qui est enceinte et après l'accouchement, si elle n'a pas entendu, c'est qu'elle ne veut pas entendre.
Mais on en parle. Et alors, dans ce passage-là, vous allez jusqu'à parler de choses dont, effectivement, on parle beaucoup moins, en tout cas en public, comme ça, de bruit du vagin, de perte d'eau, parce que c'est aussi ça. Un manque de rééducation du périnée, c'est aussi ça ce que ça provoque?
Alors ça, c'est la plus difficile pour une patiente d'évoquer cette symptomatologie, c'est le problème de la béance. La béance, c'est une ouverture anormale du vagin et qui fait que quand on change de position, que ce soit au cours d'une activité sportive ou au cours d'une activité sexuelle, l'air est expulsé du vagin et ça fait ce qu'on appelle en anglais « vaginal fart », un paix vaginal. C'est la même chose quand on sort de l'eau, alors qu'on sort de l'eau de la piscine ou de la mer ou de sa baignoire. Lorsqu'on enjambe la baignoire, l'eau sort du vagin. Et il y a souvent confusion avec incontinence urinaire, parce que c'est de l'eau, c'est pas du tout de l'urine. Alors, s'il est difficile de parler d'incontinence, il est encore plus difficile pour une femme de parler de ça. Et alors, c'est assez drôle, c'est une anecdote qui dure 30 secondes. Il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai une patiente qui est venue nous voir et qui avait acheté le livre. Et elle a dit, écoutez, je suis très contente du livre, mais surtout, j'ai trouvé une réponse à ma question, ce bruit d'air vaginal, dont aucun gynécologue m'a parlé, et chaque fois que je parle de ça, il élude la question en disant, on verra ça la prochaine fois. Donc, au moins, ça va faire démarrer les bruits d'air vaginaux en France avec une réponse à cette question.
Et donc, des questions posées aux médecins qui vont peut-être du coup être obligés d'y répondre. Docteur Jean Juras, pendant longtemps, on a considéré finalement que l'incontinence et la descente d'organes, c'était parfaitement normal, c'était lié au vieillissement, c'est ça?
On n'a pas considéré que c'était normal, mais par contre, effectivement, ça fait partie des maladies un petit peu taboues dont on parlait pas, et ça a été caché pendant de nombreuses années, et avec l'avènement de la rééducation, puis aussi des accoucheurs qui ont commencé à parler de ces problèmes-là à leurs accouchés, on a commencé à leur faire de la rééducation. Et donc, à partir de ce moment, le sujet est devenu un tout petit peu moins tabou. Donc on a commencé à en parler, donc après on a commencé à examiner ces femmes, faire des examens complémentaires pour leur proposer un traitement qui va du traitement de la rééducation comportementale, de la rééducation musculaire jusqu'à, bah, bien entendu, la chirurgie.
Est-ce que c'est moins tabou aujourd'hui ? Ou ça l'est encore?
Ça l'est encore, mais ça l'est quand même un peu moins. Moi, je me souviens avoir repris avec le bon docteur Bétou, qui a été mon maître dans le colpocystogramme, prendre mon bâton de pèlerin pour présenter cet examen dans les maternités. Tout le monde nous a reçus avec beaucoup, beaucoup de gentillesse. Par contre, quand on est parti, il dit, bon, c'est très intéressant ce que vous dites, mais chez nous, on accouche tellement bien
qu'on n'a pas de problème.
On n'a pas de problème.
Juste que les femmes vous en parlent pas, voilà. C'est ça. Docteur Abdoulaye Diop, donc vous êtes gynécologue obstétricien à Dakar, au Sénégal. D'abord, quelle est la fréquence de ces problèmes d'incontinence urinaire au Sénégal ?
Je pense que la fréquence de ce problème, un peu, c'est comme en Europe, beaucoup de femmes à Dakar, au Sénégal, en Afrique, ont ce problème d'incontinence urinaire qui survient quelques années après des accouchements ou bien suite aux maternités, surtout que nos femmes en Afrique ont plus d'enfants que les femmes ici en Europe. Donc, c'est un réel problème.
Et alors, est-ce qu'elles consultent pour ça ou c'est, on vient de le dire, tabou et on n'ose pas venir voir le médecin pour ça ?
On est encore au stade de « c'est quoi le périnée ?» En fait, elle constate, oui, les dégâts sont constatés après quelques années de mariage, après 3, 4, 5 maternités, quelques fuites urinaires, des pieds vaginaux, comme on vient de dire. Les femmes constatent qu'il y a un problème, mais elles ne comprennent pas trop d'où vient le problème.
Elles consultent ?
Très rarement. Elles ont plus tendance à aller vers la pharmacopée traditionnelle, à préparer des décoctions qu'elles vont mettre un peu dans le vagin, surtout pour raffermir le vagin, pour satisfaire sexuellement le mari, etc., ce genre de choses, au risque de créer d'autres problèmes.
À déconseiller, parce que des risques d'infection.
Déconseiller totalement. Risques d'infection, des risques de survenue ou d'accélération de la survenue du cancer du col de l'utérus, etc.
Donc c'est plus facile d'en parler aux tradipraticiens qu'à vous ?
Oui, malheureusement, oui.
Il y a un problème.
Mais je pense que le problème, il vient du fait que les gens ne font pas toujours la relation entre ce périnée qu'ils ne connaissent pas et les problèmes qui sont survenus après 5 ou 6 maternités.
Et du coup, quant aux femmes qui viennent vous voir, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui consultent au bout d'un moment et que vous leur parlez de périnée, elles n'ont jamais entendu ce mot-là.
On l'a vu tout à l'heure dans la page de RFI, lorsqu'on a mis l'annonce de l'émission.
En mettant périnée,
les gens ont eu des réactions assez drôle, genre comment on chope cette maladie, c'était assez étonnant, mais c'est la réalité, les gens ne connaissent pas le périnée et donc ne font pas obligatoirement la relation entre ce périnée qui n'a pas été entretenu et des problèmes d'incontinence et autres qui sont apparus au bout de quelques années.
Alors Alain Boursier, c'est quoi ce périnée ? C'est un muscle, ce que j'ai dit en début d'émission ?
Alors, j'aime pas le mot périnée.
C'est ce que vous avez intitulé parce qu'on est en dialogue France. Du périnée.
On est en France, et comme c'est un livre français pour le moment, peut-être qu'il sera international. En France, on appelle ça le périnée. Et dans tous les pays du monde, on appelle ça le plancher pelvien. Et quand on parle de plancher pelvien, on comprend que c'est un plancher. Périnée, ça veut rien dire. C'est un mot. Si vous dites déjà à quelqu'un un plancher pelvien, on va dire même le plancher périnéal, on comprend qu'il y a un soutènement. C'est le plancher. Alors, il y a donc un toit, c'est tout ce qui est au-dessus. Puis, il y a un plancher. Et ce plancher, soit il est tonique et on a peu de problèmes. Quand il est très tonique, on en parlera après, on a d'autres problèmes qui sont à l'inverse. Et quand il est effondré, relâché, on a tout ce qu'on vient de dire à l'actuel. Alors c'est ça le périnée, c'est une région. J'en profite, si vous me posez pas la question de l'avancer, c'est le périnée existe aussi chez l'homme.
Sûr qu'on va y venir. C'est pas que de la femme
le périnée. Alors c'est assez marrant. On parle de plancher pelvien pour la femme et on parle de périnée pour l'homme. Parce que le plancher pelvien, ça veut dire qu'il y a un soutènement et ça soutient les organes. Les organes, la vessie, l'utérus et le rectum. Chez l'homme, il n'y a pas d'organe utérin en tout cas. Il y a un vessie et un rectum, mais lui, il n'est pas en surmenage parce qu'il n'y a pas d'ouverture vaginale. Donc, on parlera chez l'homme de périnée et on parlera chez la femme de plancher pelvien. Et ce terme est vraiment international, c'est plancher pelvien.
Et quel est le rôle de ce périnée ? ou de ce plancher pelvien.
Parfait, si je vois que vous avez bien suivi. Alors, plancher pelvien, une fonction essentielle, vous, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez intervenir, vous me le dites, puisque vous êtes quand même gynécologue obstétricien, donc c'est à vous que appartiennent les premiers dégâts. Et puis, un autre problème, j'ai entendu qu'après, il y avait un médecin du sport qui s'occupait du judo. Et vous savez que dans le judo, c'est un des sports qui entraîne le plus d'incontinence urinaire chez la femme. Mais n'en parlons pas.
Non, mais si, disons un mot sur le sport.
On va le dire, Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu qu'il y avait le médecin du sport.
Le sport intensif, c'est pas forcément
c'est pire qu'un accouchement.
Ah, d'accord.
Parce qu'un accouchement, c'est une fois. Deux fois, trois fois, quatre fois. Ça s'arrête chez nous à deux. Mais alors, le sport, c'est régulièrement, c'est souvent hebdomadaire, bi-hebdomadaire, et moi je suis dans une salle de sport pour recruter des patientes, j'en vois tous les jours, qui font trois heures d'activité intense. Donc le périnée, le plancher pelvien, il est surmené. Petit exemple, quand vous éternuez fort au cours d'une crise de toux, vous montez la pression à 100 cm d'eau. Si votre périnée, votre sphincter tient, ça fait une petite goutte. Quand vous toussez, vous êtes à 50. Quand vous marchez vite et que vous courez un peu, c'est 30. Quand vous faites du trampoline, du saut à la corde, vous êtes à 150 cm d'eau de pression. Donc quand vous faites une série de sauts à la corde pendant 15 minutes, c'est comme si vous éternuez pendant 15 minutes. Imaginez le périnée dans quel état.
Vous faites souffrir votre périnée.
Ah oui, votre plancher pelvien, madame.
Mon plancher pelvien, pardon. Docteur Jean Juras, vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure quand même, que je voulais relever. C'est que les gynécologues se disent, mais moi je travaille très bien, mes patientes accouchent très bien, donc elles n'ont pas de risque pour leur périnée.
Non, enfin, ça c'était il y a assez nombreuses années, une trentaine d'années. Au moins une trentaine d'années, et je dois dire qu'aujourd'hui, ils sont tous beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensibles qu'avant.
Et beaucoup plus humbles.
Je ne sais pas si c'est grâce à moi, je pense pas, mais enfin, c'est aussi grâce aux médias qui parlent plus facilement de ça qu'il y a 30 ans.
Grâce à tout le monde. Et on va continuer tout au long de cette émission à voir justement comment rééduquer ce périnée, comment le réparer quand il le faut. Aujourd'hui, nous parlons du périnée avec Alain Boursier et le docteur Jean Juras qui viennent de publier les dialogues du périnée, et également avec nous le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien à Dakar au Sénégal. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Rebecca, 32 ans, elle est journaliste. En 2013, après avoir accouché de son premier enfant, elle a suivi une rééducation du périnée chez une sage-femme. Elle nous explique pourquoi cette rééducation a été si importante pour elle. C'est au micro de Philippine Lebret.
Pendant toute ma grossesse, pour la préparation à l'accouchement, j'étais suivie par une sage-femme. Et dans le cabinet dans lequel elle exerçait, il y avait une autre sage-femme dont le rôle était vraiment d'accompagner les femmes en postpartum, donc après la naissance de leur enfant. On s'est rencontrées et puis elle m'a fait vraiment remplir un questionnaire assez détaillé pour lui expliquer comment s'était déroulé mon accouchement, comment s'était déroulée la grossesse également, si j'étais sportive, quelle activité sportive je faisais avant d'être enceinte. Donc au départ, on a décidé de faire les 10 séances qui sont les séances remboursées par la Sécurité sociale. Et puis au fur et à mesure, on a constaté que la situation s'améliorait pas vraiment. Et donc j'en ai fait un peu plus d'une vingtaine, ce qui est beaucoup.
Parce que du coup, après l'accouchement, vous avez senti que vous aviez besoin d'une rééducation du périnée.
J'ai eu un accouchement un petit peu difficile, avec l'utilisation des forceps. Et j'avais également eu une épisiotomie. Donc je sentais bien en fait que ça allait être nécessaire. J'avais pas vraiment de fuite urinaire en tant que telle. Mais je sentais que quand j'avais envie d'aller aux toilettes, il fallait vraiment que j'y aille très vite. C'est quand même très désagréable. Et puis surtout, je savais, pour en avoir discuté avec des femmes de ma famille plus âgées, qu'à une époque, on ne faisait pas du tout de rééducation du périnée. On considérait que ça allait se remettre tout seul. Sauf que c'est des femmes qui arrivaient à l'âge de 50 ans ou même avant, avaient vraiment des fuites urinaires. Et voilà, je voulais éviter de me retrouver dans cette situation.
Et comment ça s'est passé alors, ces 20 séances de rééducation ?
Elles ont été réparties en fait en séances de rééducation manuelle. Donc là, c'est la sage-femme qui en fait introduit elle-même ses doigts à l'intérieur du vagin pour demander, en fait elle demande du coup d'exercer des pressions. Donc ça demande, pour faire les exercices, de vraiment bien se concentrer, de se fier à ce que la sage-femme dit, à sa voix, et d'exercer des pressions sur ses doigts dans certaines zones. Donc elle demande de tenir par exemple une pression sur le côté gauche, sur le côté droit, en haut, en bas. En parallèle, on a également fait des séances avec une sonde qu'on introduit. Et là, ça envoie des ondes C'est pas du tout douloureux, c'est simplement un peu étrange, mais c'est une autre manière de faire de la rééducation périnéale. Et c'est vrai que quand on le fait avec une machine, voilà, la machine travaille pour nous et c'est quelque chose de beaucoup plus passif. À l'inverse, la rééducation manuelle permet vraiment d'être partie prenante de l'exercice, puis c'est un peu plus motivant aussi.
Ça vous a pas dérangé, justement, qu'une personne que vous ne connaissiez pas introduise ses doigts dans votre vagin ?
Cette méthode manuelle, ça peut être un peu déroutant, mais en réalité, pendant la grossesse, je dirais que notre intimité devient un peu... je sais pas que ça entre dans le domaine public, mais en tout cas, on enchaîne les rendez-vous avec des gynécologues, des sages-femmes. Voilà, on est amené à être examiné. Mais ce qui est très différent dans la rééducation périnéale, c'est que ce geste que va faire la sage-femme, effectivement, d'introduire ses doigts, pour le coup, c'est quelque chose qui concerne la femme uniquement. Moi, je le voyais comme quelque chose qui m'était vraiment personnel, qui ne concernait pas mon bébé, qui allait me permettre de me réapproprier mon corps. Je ne l'ai pas du tout vécu comme quelque chose d'étrange ou d'intrusif.
De quelle manière est-ce que cette rééducation, ça vous a permis de vous réapproprier votre corps ?
Ça permet de ressentir à nouveau des choses dans cette zone du corps qui a été quand même très malmenée, pas forcément par la grossesse, mais en tout cas par l'accouchement. Et la rééducation, ça permet voilà, de se réapproprier un petit peu un moment à soi. Et puis, c'est la vie de femme qui est en jeu aussi, donc... Voilà, cette rééducation, elle n'est pas seulement pour des problèmes fonctionnels éventuels, mais ça touche aussi la sexualité. Donc je pense que c'est important de reprendre un peu la main, entre guillemets, sur ça. Parce que j'avais peur de plus jamais être capable de ressentir du plaisir, pendant les rapports sexuels notamment. Et elle a été vraiment très à l'écoute de mes inquiétudes. Elle a été capable vraiment de m'apaiser par rapport à tout ça.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du périnée avec Alain Boursier, le docteur Jean Juras et le docteur Abdoulaye Diop. Alain Boursier, une réaction par rapport à ce témoignage. Cette rééducation, elle est effectivement maintenant remboursée par la Sécurité sociale en France, mais on est un des seuls pays à le faire.
On est le seul pays.
On est le seul pays. Pas un des seuls, le seul.
Le seul pays. Alors... Comme j'ai été au départ de cette histoire, puisque avec l'aide de beaucoup de professeurs, on a réussi au ministère de la Santé de le faire rembourser cette rééducation en 85, avec ces fameuses 10 séances de rééducation périnéale, on n'a pas été copié rapidement par les différents pays. Donc, au bout d'un moment, ça fait quand même des années, et qu'il y a beaucoup de congrès sur ce sujet-là, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire une enquête mondiale et poser la question? Il y a eu un congrès à Paris il n'y a pas longtemps où j'étais présenté la rééducation périnéale postnatale est-elle une particularité française ? Et pour avoir des arguments, il a fallu que je fasse une enquête. Ça m'a pris 6 mois, mais je suis très fier de cette enquête, plus que de l'avoir mis la rééducation.
Est-ce que le périnée des femmes françaises va mieux que celui des...
Non,
c'est parce que c'est ça la question.
C'est pas la question. La question est que le mot périnée... Alors, plancher pelvien, hein, parce qu'il faut bien faire là, plancher pelvien, si vous décrivez périnée, personne ne connaît ça. Il est clair que si nous avons, grâce à cette rééducation périnéale française, réussi à éviter les examens complémentaires et la chirurgie, on pourrait dire que la mission est remplie. Or, c'est absolument aberrant. La France est le pays au monde où il y a le plus d'examens complémentaires et le plus de chirurgie du périnée. Donc, ça ne sert à rien.
Ben oui, alors...
On est bien d'accord. Posons-nous la question. Pourquoi ça ne sert plus à rien ? Alors, ça ne sert plus à rien pour plusieurs questions. Je n'ai pas la réponse. La première chose, c'est que les femmes font des enfants beaucoup plus tard qu'avant. Donc, la maternité à 40 ans est peut-être différente de celle d'une femme à 25 ans. La deuxième chose, c'est que les professionnels... Là, vous avez entendu un commentaire. Là, on sait que la journaliste a fait une rééducation avec quelqu'un de spécialisé. Elle a dit, on m'a suivi dans un cabinet avec une sage-femme et il y avait une autre sage-femme qui m'a fait remplir un questionnaire. Rien que ça, on sait déjà que c'est une professionnelle de santé aguerrie aux techniques du périnée. Donc là, on est sûr qu'elle a été bien prise en charge. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe maintenant. Maintenant, ça se passe vraiment n'importe comment puisque tout le monde à ces 10 séances de rééducation. Donc tout le monde va voir le kiné de la sage-femme qui est du coin le plus rapide.
Et qui n'est pas du tout forcément spécialisé en rééducation.
Spécialisé comme avant. Deuxième question. Et troisièmement, on vient d'en parler tout à l'heure en aparté, c'est l'histoire du sport. Toutes les femmes font du sport. Le nombre de fitness... Alors si c'était du yoga ou du yoga pilates, ça irait, mais c'est pas du tout ça qu'elles font. Donc les femmes qui étaient sportives, elles se remettent au sport précocement. Les femmes qui ne l'étaient pas... se jugent mal par rapport aux amis ou aux copines de bureau quand elles reprennent, ou peu importe, et se mettent à faire du sport. Alors, périnée tardif au niveau de l'accouchement. Le problème d'une rééducation non spécialisée et l'activité sportive intense font partie des facteurs de risque les plus rencontrés dans ces mauvais résultats de la rééducation française.
Et on y revient dans 3 minutes, juste après les informations.
7 minutes. Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du rôle du périnée pour lutter contre les problèmes d'incontinence et les troubles sexuels avec le docteur Jean Juras, qui est radiologue spécialisé en imagerie médicale de la femme, Alain Boursier, qui est consultant en périnéologie, qui a introduit la rééducation du périnée en France. Ils viennent de publier ensemble les Dialogues du périnée. C'est un livre qui paraît aux éditions Odile Jacob. Également avec nous, le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar, au Sénégal. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Alain Boursier, juste avant les informations, vous étiez en train de nous expliquer que vous avez mené une enquête pour essayer de voir finalement quel était le résultat par rapport aux pays voisins de cette rééducation du périnée, puisqu'on est une des spécificités françaises, c'est que cette rééducation du périnée est remboursée par la Sécurité sociale, donc fait quasiment systématiquement pour les femmes après leur accouchement. Et puis le résultat, ben écoutez, il n'est pas du tout positif, c'est que ça marche pas bien.
C'est que ça marche pas bien. D'ailleurs, vous avez entendu que la dame journaliste tout à l'heure, ouais, elle a dit « j'ai fait 20 séances ».
Oui.
C'est-à-dire qu'elle a fait 20 séances. Bon, on sait d'ailleurs pas les résultats. Elle a dit que je vais mieux, elle a parlé un peu tout. Elle a bien énoncé le problème. Donc 20 séances de rééducation, c'est quand même beaucoup. Ça coûte cher. Et c'est beaucoup. Si la satisfaction est là et que la gêne fonctionnelle disparaît et que la qualité de vie est améliorée, on est d'accord. Mais si c'est pour se retrouver à faire des examens complémentaires qui coûtent cher, plus une chirurgie après, ça fait beaucoup. Alors, les Américains, ils sont excessifs et eux, il n'y a pas de rééducation du tout, c'est chirurgie. C'est-à-dire qu'on ne perd pas notre temps puisqu'ils disent tout, ça va se terminer en chirurgie. Il y a un mot...
Et chirurgie, c'est quoi exactement?
Alors chirurgie, vous en parlerez tout à l'heure. C'est bon, il évoquera la chirurgie, moi je ne veux pas me lancer sur ce terrain-là. Il est évident que l'américaine dit « I would like to fix the problem now ». C'est « j'ai pas de temps à perdre ». Alors, j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas... Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? On fait des exercices de Kegel, on contracte ses muscles. D'ailleurs, c'est la question qu'on pose. Qu'est-ce que je fais? Mais si votre périnée n'est pas bon, bah, vous pouvez toujours contracter. C'est ce qu'a fait la sage-femme avec sa rééducation digitale, qui est aussi une particularité française. De mettre des doigts dans le vagin, c'est un peu particulier. Bon, une fois que vous avez une contraction volontaire bénéfique, vous pouvez le faire tout seul, il n'y a pas besoin d'aller continuer. Et si vos muscles ne répondent pas aux pressions, aux manœuvres digitales, il faut stimuler ces muscles. Alors la stimulation électrique, ça date depuis 35 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On introduit une sonde dans le vagin. Cette sonde dans le vagin, elle permet d'envoyer du courant sur les parois des muscles et ça va stimuler les muscles. Mais si les muscles ne sont pas bons, les fibres musculaires n'existent pas, ou peu. Donc vous stimulez les muscles, il ne se passe rien. C'est encore les femmes qui ont fait 20 ou 30 séances. Bon. Ensuite est arrivée une autre technologie. Au lieu de mettre une sonde dans le vagin qui dépend du calibre du vagin, il se trouve que les sondes sont à peu près toutes standards. On sait, les gynécologues peuvent le dire, que quand une femme a une béance vaginale, elle a un vagin qui est détendu. Et la sonde vaginale ne peut pas toucher les parois. Donc on envoie du courant qui n'est pas agréable, il ne fait rien. Alors, il existe maintenant un short électrique qui permet de stimuler les muscles en externe. Donc quand on a ce short électrique, on envoie un courant croisé entre la fesse droite et la cuisse gauche de l'autre côté, inversement, et au milieu, il y a le périnée. Donc ça, c'est une nouvelle approche qui peut rendre service aux femmes qui ont des problèmes de béance vaginale. Inversement, si la femme a une césarienne, elle peut avoir aussi des problèmes urinaires, ou qu'elle a un périnée en bon état et qu'elle a des fuites, on ne va pas lui introduire une sonde dans le vagin. Ça sera douloureux. Là encore, on peut avoir recours à cette technologie. Mais tout ceci n'est pas suffisamment efficace pour que les femmes puissent être parfaitement satisfaites, à la fois sur le plan sexuel, c'est pour ça qu'on fait des plasties du vagin, sur le plan du prolapsus, et Jean Juras qui fait ses examens complémentaires, la colposcytogramme va en parler, et puis de l'incontinence urinaire anale, parce que l'incontinence anale, ça existe aussi, c'est encore plus gênant à évoquer, bien entendu, heureusement, c'est moins fréquent, mais c'est tellement gênant que la femme évite de poser la première. Alors le gynécologue, il pose jamais la question à une de ses patientes. Bonjour madame, comment ça va? Est-ce que vous avez des difficultés à retenir les gaz ou à retenir les matières au cours d'une diarrhée? Il pose pas cette question. Donc la femme reste comme ça.
Justement, alors, docteur Jean Juras, vous êtes radiologue. Je dirais, qu'est-ce qu'un radiologue vient faire dans tout ça? Quels sont les examens complémentaires que vous êtes amené à faire?
Ben, écoutez, les examens sont, avec les avancements de la technologie, sont de plus en plus nombreux. Mais je me permettrai d'insister d'abord sur le plus ancien d'entre eux, c'est l'interrogatoire. C'est pas un examen complémentaire, mais c'est essentiel parce que le prolapsus ou l'incontinence, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie létale, mortelle, personne n'en est jamais mort, c'est un inconfort. Or l'inconfort,
Qui peut pourrir la vie.
Il peut pourrir la vie, et il n'y a que la femme qui peut vraiment savoir son degré d'inconfort et vous le dire. Bon, ensuite, faut savoir de quoi elle se plaint surtout, de quoi elle se plaint, et faire l'examen clinique. Qu'on ne fait pas toujours ou un peu trop rapidement, de façon à savoir ce que l'on cherche, ce que l'on va trouver, et à partir de là, si vous voulez, déterminer le type d'examen complémentaire que l'on va demander, parce qu'ils sont extrêmement nombreux, ils n'intéressent pas uniquement la radiologie, il n'y a pas uniquement le colpocytogramme qui est la radio qui analyse la descente d'organes, qui montre le degré d'importance de la descente d'organes, il n'y a pas uniquement l'IRM qui est un examen absolument fabuleux, mais malheureusement, il se passe aujourd'hui, comme on n'a pas d'IRM debout, il se passe en position couchée. En position couchée, généralement, les femmes n'ont pas de problème. Elles ne perdent pas leurs urines, elles ne se plaignent pas de pesanteur, ni rien du tout. Donc après, il reste donc l'échographie, qui est un examen qui n'est pas invasif. Ensuite, la cystographie rétrograde et mixtionnelle pour voir comment la vessie se comporte, donc en plus du colpocytogramme, et qui, à partir de ce moment-là, peut nous donner déjà, entre l'interrogatoire, l'examen clinique et ces examens-là, de voir s'il faut prévoir un examen essentiel, et généralement il le faut, c'est-à-dire l'exploration urodynamique, qui est la prise de pression, à la fois dans la vessie, dans l'urètre, c'est-à-dire le petit conduit par lequel on fait pipi, et dans le rectum pour contrôler la pression abdominale.
Et qu'est-ce que ça montre, justement, cet examen?
Cet examen montre d'abord deux grosses pathologies qui sont susceptibles, enfin trois symptômes. L'un qui est l'instabilité vésicale, c'est-à-dire la vessie est hyper nerveuse, c'est-à-dire qu'elle réagit trop vite, elle ne se remplit pas, donc la miction, le premier besoin est très tôt lors du remplissage. Deux, elle vous montre la qualité du sphincter, strié rétral. Donc, pour savoir s'il y a une insuffisance sphinctérienne, quand il y a une insuffisance sphinctérienne, dans ce cas-là, il faudra prévoir, lors de la chirurgie, de prévoir un soutènement sous-urétral pour justement aider ce sphincter.
Alors, les auditeurs sont en train d'appeler pour nous poser des questions. On a Fatima qui nous appelle de Lomé au Togo. Fatima, bonjour. Bonjour Fatima. Oui, bonjour Fatima. Vous êtes en direct dans Priorité Santé. Je crois que vous venez d'accoucher, c'est ça?
Oui.
Fatima, il faut parler bien près du téléphone. Ne surtout pas être sur haut-parleur pour qu'on vous entende. Fatima, il faut être bien près du téléphone. Ne surtout pas être sur haut-parleur pour qu'on vous entende bien. On vous écoute, Fatima.
D'accord. Allô, vous m'entendez?
C'est beaucoup mieux. Oui, absolument. On vous entend.
D'accord. En fait, je viens d'accoucher il y a trois mois et demi, et pour la première fois, c'est mon troisième geste, et pour la première fois, le médecin, il me parle de rééducation du périnée. Alors, c'est tout nouveau pour moi, il m'a montré quelques exercices à faire, moi-même chez moi, mais j'avoue que je m'en sors pas, et ça m'inquiète, parce que, bon, apparemment, il y a un relâchement, et je me demande quels sont les risques de ce relâchement.
Alors, quels sont d'abord les risques de ce relâchement? Peut-être que Dr Abdoulaye Diop pour répondre à cette question, puis après Alain Boursier sur la question de la rééducation.
Déjà, c'est évocateur le fait qu'elle soit à son troisième accouchement, à son troisième enfant, et qu'on vienne seulement lui parler du périnée, alors qu'elle aurait pu avoir peut-être cette information un peu plus tôt. Donc, les risques de ce relâchement, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la diminution de la qualité de la vie sexuelle déjà, les risques de survenue d'incontinence urinaire, de pets vaginaux, et la descente d'organes. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment les principaux risques que l'on peut avoir lors d'un relâchement du périnée.
Et juste une précision, Fatima, vous n'avez jamais parlé de votre périnée avant, vous ne saviez pas ce que c'était?
Non.
Non, vous n'en avez pas parlé. Donc, ça, effectivement, comme vous dites, docteur Abdoulaye Diop, c'est assez révélateur. Alors, Alain Boursier, sur la partie de la rééducation, quand on dit à une femme qu'il faut rééduquer son périnée, on fait quoi? Quels sont les exercices que vous pouvez décrire?
Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire, madame?
Alors, d'introduire deux doigts dans le vagin et de contracter les muscles du vagin.
Oui. Vous avez ça comme exercice à faire à la maison, c'est ça?
Oui.
D'accord. Et alors là, vous avez remarqué quand vous mettez votre doigt dans le vagin que le vagin, il est un peu détendu ou il est normal?
Alors, je pense qu'il y a un relâchement. Je ne sais pas tellement décrire, mais je pense qu'il y a une retombée d'un muscle au niveau des petites lèvres.
Et est-ce que vous arrivez à faire les exercices ou pas?
Bon, j'avoue que je ne le fais pas régulièrement, mais la fois où j'ai essayé, ce n'est pas évident.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que la première chose que vous pouvez faire pour identifier vos muscles, c'est une seule fois et pas souvent, c'est vous au moment où vous allez aller aux toilettes avec une vessie pleine, vous mettez en position assise normale, et puis vous faites pipi, et quand vous êtes au maximum de la force du jet, vous essayez d'arrêter ce jet. Si vous voyez que le jet s'arrête, c'est que vous avez un bon contrôle de votre périnée et que votre sphincter fonctionne. Si maintenant vous voyez que ça freine, c'est déjà pas trop mal, mais alors si ça continue, c'est que non seulement on a un problème de périnée, mais aussi on a un problème de sphincter. De sphincter, c'est le petit muscle qui se trouve au niveau du tuyau de l'urètre qui permet de retenir ses urines. Peut-être que...
Et vous dites ça, c'est à faire qu'une fois.
Oui, une fois de temps en temps, parce que si on a, et je pense qu'elle a une descente, elle dit qu'elle a quelque chose de bizarre, ça peut être une descente un peu de vessie, si elle fait ça, elle risque de plus bien vider sa vessie et après d'avoir un autre problème.
C'est ça, c'est pas un exercice à faire.
Donc c'est un test.
C'est juste un test, d'accord.
Moi je pense que, au lieu de mettre vos doigts dans le vagin, il faut être extrêmement souple, parce qu'il va falloir les rentrer dans le bon sens, pas évident. Ce que vous pourriez faire, c'est mettre votre médius, c'est-à-dire le doigt du milieu de la main, entre le vagin et l'anus. Vous avez un petit bout de peau là. Vous repérez un peu?
Oui.
Voilà. Et c'est ça le périnée. Donc vous mettez votre doigt là, vous faites une pression et vous essayez de serrer l'anus et le vagin. Et si ça, vous ressentez une espèce de contraction, la peau quand même, ça se durcir, alors bravo, c'est que c'est là, c'est le bon endroit et vous le faites bien. Après, il suffit de le faire plusieurs fois par jour.
Alors, et c'est surtout, ça, il faut le faire combien de fois cet exercice?
Le maximum qu'on peut, sachant que ça s'épuise vite. Et puis pendant que vous y êtes, vous mettez une main sur les abdominaux, sur la partie basse de votre ventre, et vous regardez bien quand vous faites ça si votre ventre il n'est pas en train de rentrer, parce qu'à ce moment-là vous faites pas une bonne contraction. Voilà, ça c'est vraiment la rééducation périnéale à minima, toute seule, mais qui peut déjà améliorer l'affaire.
Docteur Abdoulaye Diop, merci hein, Fatima, ça va, j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelé de l'Homéo Togo. Docteur Abdoulaye Diop, est-ce qu'il y a du coup des kinés qui sont spécialisés au Sénégal dans la rééducation du périnée? Est-ce que ça commence?
Oui, ça commence. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. Déjà, avec ce problème dont on ne connaît pas trop c'est quoi le périnée ainsi que la rééducation, nous avons quelques kinés quand même, plus dans le secteur privé. Nous avons, nous, la chance à la clinique NAS d'avoir une kinésie qui vient deux fois par semaine proposer des séances de rééducation périnée. D'autres cliniques de la plage, je pense, le proposent. Donc, ça commence.
Ça commence, oui. D'accord. Alain Boursier, ce que vous disiez, le problème, c'est effectivement la formation de ces kinés à ça. Est-ce que maintenant, c'est vraiment intégré dans la formation des kinés et suffisante?
Alors, autrefois, il n'y avait pas de problème parce que c'était des cours, des formations universitaires avec des diplômes.
Kiné et sage-femme, d'ailleurs.
Kiné et sage-femme. Donc, pendant des années, au moins une dizaine d'années, ça a été comme ça. Il y avait des écoles référentes, il y a des facultés qui prenaient en charge. Et là, franchement, et Jean Juras a participé à la formation pour le bilan radiologique, on avait des gens extrêmement compétents qui savaient d'ailleurs leurs limites en disant pour moi franchement
et
c'est
motivé,
pas assez.
Et
motivés. Donc on en a encore mais ils sont seniors maintenant, il y a des années. Ensuite, il s'est trouvé que cette formation a disparu complètement et c'était au profit des années d'études pendant le cursus des études. Évidemment, le cursus est court, c'est un module très court, il n'y a pas de formation, il n'y a plus de stage pratique, c'est fini. Donc je pense
c'est
que c'est une des raisons. Non, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà. Alors dans les autres pays, c'est un petit peu plus compliqué, mais ceux qui font ça, c'est comme à l'ancienne, c'est-à-dire ils ont vraiment un master, un diplôme qualifiant de rééducation, ça s'appelle les professionnels de santé du périnée de la femme, voilà. Et la différence, alors c'est ça qui est très important, je vais le dire deux fois, la différence entre l'étude que j'ai montrée sur 57 pays, puisque la France était à part, c'est que tout le monde répond, on en fait pas, mais quand on en fait, ce sont pour des patientes symptomatiques. C'est pas pour tout le monde. Si la dame n'a pas besoin, on va pas le faire. Donc nous,
notre systématique n'est pas une bonne idée.
Non, c'est pas une bonne idée. La preuve. Donc la dame qui en a pas besoin va faire comme ses 10 séances, remboursée pour rien. Moi, je pense qu'il faut diminuer sur l'enveloppe budgétaire. Il faut diminuer celles qui n'en ont pas besoin, donner des conseils aux autres, et puis celles qui en ont vraiment besoin, les envoyer chez des spécialistes du périnée comme on faisait autrefois.
Si je retiens ce que vous dites justement, Alain Boursier, c'est donc pas de systématique. Arrêtons le remboursement systématique. C'est pas forcément la solution. Reformons bien les kinés et sages-femmes à cette question.
Si je pouvais avoir fait ça avant de partir définitivement en prêt, je serais très content.
Ce serait une bonne idée. Vous vouliez réagir, Jean-Jules.
Non, je crois que oui, en fait, il y a un tiers des accouchés qui n'ont absolument pas besoin de rééducation.
Oui. Et alors, sur la question de la formation que vient d'évoquer Alain Boursier, est-ce qu'il y a ce même problème de formation au niveau des radiologues sur cette spécialisation-là ?
Ah, le problème, je pense qu'il est encore plus important que
kiné sage-femme,
parce que effectivement, pendant mes études de médecine et de radiologie, il y avait vraiment pas de cours vraiment spécifiques à tous ces problèmes.
On s'est
instruit sur le tas en allant voir les gens compétents, qu'ils soient gynécologues, urologues ou radiologues.
Mais pareil, là-dessus, il vaut mieux aller voir un radiologue un peu spécialisé sur la question.
Si vous voulez faire les radios, mais si vous voulez bien comprendre et bien faire les radios, il faut d'abord aller voir les cliniciens.
D'accord. pour avoir le bon diagnostic et le bon examen prescrit.
Comme ça, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on cherche et on risque de moins l'erreur.
On a Aïcha qui nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aïcha, bonjour.
Oui, bonjour, Claire.
On vous écoute.
Bon, j'ai eu un problème à l'accouchement.
On vous écoute, oui, on vous écoute, allez-y.
Voilà, j'ai eu un problème à l'accouchement, ils m'ont coupé le périnée et puis l'anus. Donc, au début, je ne retenais pas les selles, donc on m'a opéré 4 fois. Maintenant, je voulais savoir à la longue si je ne vais pas avoir des complications, parce que ça m'embête un peu.
Et aujourd'hui, est-ce que ça va mieux?
Bon, ça va un peu mieux, seulement je ne retiens pas. Quand j'ai la diarrhée, je ne peux pas retenir les selles.
Docteur Abdoulaye Diop, est-ce que vous voulez répondre à Aïcha?
Oui, elle présente vraiment un cas vraiment très compliqué avec probablement une épisiotomie, donc une déchirure un peu du périnée ou du vagin lors de l'accouchement, et une complication anale. Donc probablement une rupture du sphincter de l'anus. Donc c'est un cas vraiment très compliqué. Sûrement qu'elle a eu cet épisode plus une déchirure associée. Oui, la chirurgie a pu régler son problème, mais peut-être de manière incomplète. Est-ce qu'il y a eu après une rééducation qui permet un peu de retrouver la tonicité du sphincter anal? Est-ce qu'elle a fait saisir des rééducations périnéales? C'est vrai qu'à long terme, elle risque justement d'avoir une descente d'organes, que cette incontinence fécale qu'elle semble avoir se complique un peu. C'est un cas vraiment compliqué. Donc il faudrait une prise en charge multidisciplinaire du gynécologue, du gastrologue, etc.
Alain Boursier, effectivement, quand il y a eu chirurgie, la rééducation aussi est utile derrière?
On parle de quelle chirurgie? Quand on fait une chirurgie, alors on n'a pas, je sais pas si on a le temps, mais dans l'incontinence urinaire d'effort dont a parlé tout à l'heure le docteur Juras avec l'urètre, le petit tuyau, il faut bien comprendre, et ça c'est très très important, c'est que quand on fait cette fameuse rééducation périnéale, on renforce le périnée, le plancher pelvien, mais c'est pas évident on peut renforcer le sphincter urétral. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent, je comprends pas, j'ai fait 1500 séances de rééducation, mais j'ai toujours des fuites. Bah oui, parce que c'est pas là que ça se passe. Et justement, cet examen urodynamique, qui a été mentionné avant par le docteur Juras, montre si c'est vraiment le sphincter, auquel cas on perd son temps, et il y a cette fameuse chirurgie qu'on appelle la bandelette, qui est une intervention maintenant qu'on fait depuis 15 ans, et alors, elle est systématiquement faite dans certains pays qui font pas de la rééducation, je ne citerai pas le pays dont on parle en ce moment, pour d'autres raisons, mais nous, on est de plus en plus amené à proposer cette intervention chirurgicale dès lors qu'on est dans l'année. Ça fait 1 an que la dame a ses problèmes. La rééducation ne donnera rien et il faut lui faire une bandette, ça va de soi.
Merci beaucoup Aïcha de nous avoir appelé. On a beaucoup parlé du périnée des femmes, enfin, en tout cas du plancher pelvien des femmes. On a peu parlé des hommes. Ce périnée chez les hommes, il sert à quoi?
Le périnée, il soutient pas les organes, puisqu'il n'y a pas de problème. Il permet, par l'intermédiaire du sphincter urétral, d'avoir une continence urinaire. Et j'ai vu qu'il y avait une question après là-dessus. Et il permet également, au niveau du pénis, il y a des muscles qu'on appelle les ischios et les bulbos caverneux qui vont se modifier au moment de l'érection. Et si le périnée, qui fait partie de ces muscles, est efficace, ça va renforcer l'érection. Et ça va donner donc une satisfaction à l'homme et à la femme. Donc c'est important dans l'érection. Et c'est important par l'intermédiaire du sphincter dans la continence urinaire. En général, il n'y a pas trop de problèmes chez l'homme, mais il y a une grande intervention chirurgicale, c'est le cancer de la prostate, la prostatectomie radicale, qui entraîne évidemment par le fait qu'on va enlever toutes les cellules autour du sphincter, on va même parfois couper le sphincter volontairement ou involontairement. Alors le sphincter urinaire étant déficitaire, dans l'année qui suit l'intervention, on risque d'avoir une incontinence urinaire importante et on risque d'avoir aussi une défaillance érectile du fait qu'il y a tous ces nerfs érecteurs qui sont dans la partie.
Alors justement, je voudrais vous lire le message de Camar à Cotonou au Bénin qui dit « J'ai un ami qui, suite à une chirurgie de la prostate, a eu des problèmes de périnée, il a eu des problèmes d'éjaculation et une incontinence urinaire. Du coup, on lui a donné des séances de musculation du plancher pelvien. » Alors là, on lui a parlé du plancher pelvien.
Alors moi, je me suis occupé de ça. Moi, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais j'ai fait un an de rééducation périnéale pour les prostatectomies. J'en ai vu beaucoup, à peu près 300 hommes dans l'année, donc c'était pas mal. Alors premièrement, c'est assez intéressant. Comme tout à l'heure on a dit pour les accoucheurs, généralement les accoucheurs disaient autrefois que chez eux dans leur service il n'y a pas de problème de périnée, mais il y en a quand même. Et les chirurgiens urologiques disent chez moi il n'y a pas de problème quand je fais une prostatectomie, je n'ai jamais d'incontinence urinaire de problème érectile. C'est faux.
Pareil, le patient n'en a pas parlé à son médecin. C'est tout.
Et il dit la série est bonne et voilà.
C'est les mêmes.
Donc il tourne et forcément on les récupère un jour. Bon, alors il est évident que la rééducation du périnée, c'est pas évident parce que ça se fait déjà avec une sonde anale. Donc chez l'homme, s'il a des hémorroïdes, c'est pas rigolo. S'il a une radiothérapie en même temps, c'est pas rigolo. Donc c'est pas facile. Ou alors, il y a un autre processus, c'est qu'on met des élastiques électriques au niveau de la verge. Et on stimule cette partie-là. Bon, là, c'est vraiment des spécialistes de ces spécialistes. Et des fois, on cumule les deux. On espère...
Et ça marche ?
On améliore. On peut jamais guérir, mais il se trouve quand même que l'amélioration est telle que le patient qui avait des couches culottes, parce que lui, c'est une incontinence totale. Hein. Il était tellement déprimé que si on peut déjà l'améliorer et passer à une protection, c'est un beau résultat. Et puis maintenant, la fameuse bandette de chez la femme, elle est proposée chez l'homme. Un an après une rééducation non efficace, on met une bandette. Et si ça ne marche pas, il y a encore un autre procédé qu'on appelle le sphincter artificiel. Et là, ça remplace... Alors, il y a des hommes qui ont pas de chance. Ils avaient un cancer de la prostate qui s'est mal passé, prostatectomie radicale, incontinence urinaire, problème d'éjaculation, ou parce qu'on éjacule aussi dans la vessie, bon, c'est une autre histoire. Problème d'érection, rééducation inefficace, bandelette inefficace, je vous fais le pire, hein, sphincter artificiel et prothèse pénienne. Donc ça veut dire que franchement, ça peut aller loin. Et c'est évident.
Mais ça veut aussi dire qu'on avance.
Ça veut dire qu'on a quand même une amélioration. Là, tout à l'heure, j'ai entendu la femme qui disait avec ma sage-femme, ça m'a donné aussi une aide psychologique. Alors là, c'est pas une aide psychologique, c'est essentiel. Chez les hommes, ils sont vraiment tout à fait perturbés, donc c'est plus que du périnée, là. Il faut une prise en charge psychologique forte pour pouvoir aider ces hommes qui arrivent avec des couches, sans érection, des fois à 50 ans, des fois j'en ai vu à 40 ans, et qui se retrouvent avec ce problème. Donc pour moi, la rééducation périnéale chez l'homme, c'est une grande avancée. Malheureusement, ça donne pas forcément les résultats escomptés.
Suffisant. On a Justin qui nous appelle de Mérida, en Espagne. Justin, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Justin.
Voilà, je vais d'abord commencer par dire mon âge, parce que le docteur vient de parler d'un homme de 40 ans. Donc moi, j'ai 45 ans. Et il y a un temps, j'avais un problème d'érection. C'est-à-dire qu'il peut se passer une semaine sans que j'ai une bonne érection. Il faut vraiment que ma femme m'aide à stimuler ma verge pour avoir l'érection. Et elle m'a même demandé si je l'aimais encore, si c'est pas une parce que je ne l'aime plus. Non, je dis non, que peut-être c'est parce qu'il y a longtemps qu'on est ensemble et que bon, ce problème-là nous arrive, on n'a plus d'intérêt, bon, voilà, on se connaît trop déjà et tout ça. Et voilà, tout récemment, je constate que j'ai un problème avec la rétention de l'urine. C'est-à-dire, quand j'ai un besoin urinaire, il faut que je le satisfasse automatiquement ou alors je commence à perdre des gouttes. Et voilà, donc, soit je suis au volant, il faut que je garde quelque part.
Et vous vous êtes demandé s'il n'y avait pas un lien entre les deux, c'est ça?
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Parce que bon, je me dis que ce sont des problèmes qui s'accumulent. Bon,
voilà. Et est-ce que c'est pas lié justement?
Un docteur, et voilà qu'aujourd'hui j'écoute cette émission. Bon,
mais peut-être qu'on va vous conseiller d'aller quand même voir un docteur, comme vous dites, d'aller voir un médecin. Alors, Alain Boursier.
Bon, alors d'abord, il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a plus de désir que chez votre femme vous l'aimez plus et que l'érection est défaillante. Il y a probablement chez vous une déficience somatique du corps. Il va falloir investiguer. Premièrement, il faut rechercher le diabète parce que la cause du diabète est une des problèmes. Deuxièmement, il faut faire une échographie de la prostate pour voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'hypertrophie de la prostate qui peut faire que vous videz mal. Comme vous videz mal, vous avez envie d'où vos urgences. Et évidemment, ça peut avoir un problème érectile. Donc, je pense que ça n'a rien à voir. Rassurez votre femme, vous l'aimez toujours. Mais il faut faire un bilan de santé, une glycémie, une échographie de la prostate et voir si on peut pas vous aider là-dedans, mais je pense qu'on va trouver une solution.
Voilà, il faut en tout cas aller chercher, aller consulter, c'est absolument indispensable. On arrive à la fin de cette émission à faire un tour de table en vous demandant à chacun un mot de conclusion. Docteur Jean Juras.
Écoutez, moi, je suis très content que vous nous ayez accepté dans cette émission parce que ça a permis de divulguer un petit peu plus les secrets du périnée, de le rendre
est-ce
un petit peu moins
tabou. Est-ce qu'on a dit l'essentiel ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas...
Je pense qu'en plus, avec le vocable de boursier, on pourrait passer une semaine sur
c'est
le périnée.
Docteur Abdoulaye Diop.
Oui, moi, je voudrais sensibiliser un peu nos collègues médecins, gynéco et sage-femme à parler un peu plus du périnée à nos femmes et à le proposer si besoin. D'abord, des tests pour voir s'il y a un problème au niveau du périnée et de la rééducation, des boules de geisha.
C'est ça. Et donc, vraiment, de dire au médecin, il faut poser la question. Ouais, ouais. Et après un accouchement, il faut demander à la femme si elle a des problèmes d'incontinence urinaire, de troubles sexuels. Et si le médecin ne pose pas la question, elle n'aura pas la réponse.
Ou que les femmes interpellent un peu leur médecin, leur gynéco, leur
sage-femme. Qu'elles osent parler. Absolument. À défaut d'avoir le médecin qui ose poser la question. Alain Boursier.
Bah, moi, ça va dans ce sens-là. Je pense que le livre, il a été fait uniquement dans la promotion du périnée, entre guillemets, pour qu'on en parle. Et que les femmes lisant ce livre disent, mais attendez, les symptômes que j'ai eus là, c'est ça. Et parlent au médecin. En disant, écoutez, on l'interpelle. Parce que le gynécologue, vous savez, quand il y a un cabinet de groupe, il y a 10 gynécologues, vous en avez 2 sur le périnée. Hein. Les 8 autres, ils font autre chose. Et ce n'est pas parce qu'il est gynécologue obstétricien qu'il va s'intéresser au périnée. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. Donc, soit il est mal à l'aise, soit il n'est pas formé, soit ce n'est pas son sujet. Mais la dame, elle, quand elle a un emmerdement, elle veut bien qu'on lui parle de son problème.
Mais à vous entendre quand même, Alain Boursier, on a énormément progressé dans les traitements.
Ah oui, alors c'est vraiment stupide actuellement, même pour l'homme, de rester comme ça, parce qu'on a tout un éventail thérapeutique entre la rééducation, entre les médicaments pour les vessies hyperactives, entre la chirurgie de la petite bandelette, entre la chirurgie du prolapsus, entre la chirurgie, toute la manométrie anorectale pour le sphincter. Non, franchement, actuellement, on a ce qu'il faut. On a les ustensiles pour traiter tous ces problèmes.
Merci beaucoup Alain Boursier et Dr Jean Juras. Je rappelle que vous avez tous les deux publié Les Dialogues du Périnée, c'est un livre qui paraît aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Dr Abdoulaye Diop. Je rappelle vous que vous avez un blog, un Toubib à Dakar.
Priorité santé avec Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.